écoutez Radio Éphémère, nous sommes le samedi 15 janvier 2011. Nos programmes pour cet après-midi à 13h30 du sport. Résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, ce sera normalement du reggae. À 17h, Radio Éphémère, c'est de l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le tirage des rois, départ Tunis, direction Varennes, que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end.
C'est le principe de l'œil du cyclone. Tant qu'on est au cœur du truc, on craint rien. Et dès qu'on est obligé de faire un pas de côté, on est entraîné par ce cyclone-là. Donc Joannovici, c'est un personnage qui est en permanence sur la brèche. Et il se retrouve face à ces types-là. Il a toujours besoin de se protéger. Mais la moindre action génère un danger encore plus grand. Du coup, il est obligé d'aller encore plus loin pour se protéger. Encore plus loin pour survivre.
Radio Éphémère présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport. Ultimatum, Das Creek et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour et bienvenue à tous. Das Creek est déjà à l'antenne. Ultimatum et du sport ont un petit peu de retard. Il faut dire que, vous le savez, on a décalé une grande tradition de cette émission complètement punitive, je vais dire, vis-à-vis des animateurs, et du coup ben ils hésitent encore à arriver. Non, en fait c'est pas moi pour une fois qui amène la galette des rois, et elle sera pas faite maison, voilà. Et vous savez ce que l'on tire en général, ce qui arrive à celui qui prend la fève. Ah non, peut-être que vous ne le savez pas, vous le saurez tout à l'heure. Cette semaine, on a fait une émission, enfin plus exactement c'est Ultimatum que du bois. Allez, allons-y. Est-ce que on va faire un petit bilan de l'année passée du sport à enchérir? Dit bon, oh, une décennie même. Après tout, on a une décennie qui est passée. Ah, c'est vrai que c'était intéressant. Eh ben, vous verrez, on va faire un peu un bilan de ce qui nous a marqué pour 2010, voire pour les 10 précédentes années. On verra ça tout à l'heure. Alors ceci pour, je vais dire, après que vous ayez voté à notre grand jeu concours, combien de films il y a-t-il dans un top 5? Envoyez vos réponses par SMS plus sans recommander. Enfin bon, ceci dit, van à part, on va peut-être commencer avant d'y aller dans les news, avec le Psychopathe, le numéro de janvier 2011, le numéro 227 est arrivé, 4,90€, et c'est sur les réseaux sociaux, et sur peut-être, je vais dire, le plus turbulent de tous, peut-être que Thomas en parlera tout à l'heure d'ailleurs du film The Social Network, puisque c'est sur Facebook principalement qui est mis en avant. Facebook, il y a aussi Twitter qui en prend plein sa gueule. C'est assez rigolo, donc on apprend évidemment plein de choses sur les usages inutiles et débiles et détentes et sociales des réseaux sociaux. Remplissez la suite de l'éditorial, après tout c'est du web 2.0. C'est évidemment, c'est assez turbulent, violent, rageur, tout ce que vous voulez, et vraiment poilant. À noter aussi, grande évolution pour ce numéro 227 du Psychopathe illustré, revue qui a été créée en 1980, donc si je me souviens bien, par Carali, enfin si je me souviens bien de la date, puisque c'est Carali qui l'avait monté. Allez, je vous le dis, il est pratiquement intégralement en couleur dans les pages intérieures. Donc ça, ils sont passés, je vais dire, uniquement de la partie couve en couleur et les pages intérieures en noir et blanc à une publication intégralement en couleur. Est-ce qu'on y gagne vraiment? Ouais, je veux dire qu'il y a certains dessinateurs qui peut-être y gagnent en lisibilité par rapport à quand ils faisaient des ancrages et des niveaux de gris. Là, bon, c'est... Je veux dire, bon... Ouais, allez, il est peut-être enrichi. En tout cas, ça fait plaisir que le psychopathe soit passé en couleur. Peut-être que du coup, une certaine jeunesse qui n'est déjà plus très habituée à lire du papier va s'intéresser à cette revue indépendante sans publicité et complètement irrévérencieuse en général. Et là, c'est Facebook qui en prend plein la gueule avec une excellente couve, je dois dire, de coco où il s'en prend en fait au bouton qui a fleuri partout en 6 mois et qui nous insupporte tous. C'est le bouton j'aime avec le pouce vers le haut qui est, que tout le monde trouve absolument insupportable. Bouton d'ailleurs qui a été créé par la créatrice des icônes des premiers Mac d'ailleurs. J'ai découvert ça par hasard. Complètement à part, ça bouge énormément du côté des détaillants en bande dessinée, puisqu'on apprend à la fois l'ouverture d'une nouvelle librairie de bande dessinée et la fermeture de la plus ancienne librairie de bande dessinée à Toulouse. Alors ceux qui ne sont pas de la région toulousaine, ça les intéresse peut-être pas, donc ils peuvent sauter 4 minutes en avant dans le podcast. Et gros avantage par rapport à la radio en direct. Mais ceux qui sont amateurs de bande dessinée à Toulouse, ils seront peut-être surpris d'apprendre que la librairie Arcade va fermer à la fin du mois. Gilda Raffelli, qui donc est, je vais dire, la patronne et qui tient ça depuis... Vous vous rendez compte, elle a ouvert Arcade depuis un sacré bon bout de temps et qui, au départ, était un détaillant de presse. Et ben, elle a décidé de fermer boutique tout simplement parce qu'elle prend sa retraite et puis aussi par usure parce que c'est vraiment un boulot monstrueux qu'elle fait puisque c'est un point de presse. Donc ça veut dire être présent le matin dès 6h pour recevoir justement tout ce qui est la presse et faire les retours et tout le reste. Et en même temps alimenter, puisqu'il y a la mairie de Toulouse juste en face, puisqu'elle est sur la place du Capitole, et ben alimenter, je veux dire, les différents services, les différents politiques qui passent, Le Monde, La Dépêche et tout le reste. Donc, elle est devenue, en fait, ce qu'elle raconte dans un très bon entretien de La Dépêche, un peu court, mais quand même assez intéressant, sur comment elle s'est mise à vendre de la bande dessinée. En fait, c'est des étudiants des Beaux-Arts qui ont dit « Eh, vous avez vu, on a acheté quelques-uns de ces albums-là, la rubrique à braque, ça se vend bien, vous devriez peut-être en commander. » C'est comme ça qu'elle a commandé un stock de la rubrique à braque, à l'époque où il n'y avait pas tout le grand système de distribution de livres et d'albums qu'il y a actuellement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas Hachette et tout le reste. Donc elle s'est mise à en commander, c'est parti très vite. Et puis au fur et à mesure qu'elle commandait, en fait, il y a d'autres points de presse, d'autres librairies qui ont commandé chez elle, justement, les albums. Puis ensuite, il y a eu les bibliothèques publiques, les organismes privés et tout ça. C'est une grosse blague, en fait, qui circule depuis un bail chez la plupart des libraires concurrents et aussi chez les fournisseurs de ces détaillants, que ce soit chez Hachette et tous les autres circuits de distribution, c'est que la librairie Arcade, c'est peut-être la librairie de France qui vend le plus de bandes dessinées au mètre carré. Faut dire que c'est vraiment tout petit. Ça va faire, je sais pas, en surface, ça doit être plus petit que le studio Radio FMR qui fait difficilement ses 12 mètres carrés. C'est extrêmement impressionnant. En plus qu'elle a la presse, les magazines et la presse étrangère. Donc voilà, donc c'est une belle aventure commencée en 71 qui va se terminer en fin janvier. Donc Gilda Raffelli qui tire le rideau et à la place, c'est un chocolatier qui va se mettre à la place. Chocolatier chaîne de glaciers chocolatiers de luxe. Donc on se doute bien qu'elle a l'angle sur la l'angle de des arcades, donc c'était extrêmement convoité. Bah, ça faisait 2 ans qu'elle essayait quand même de vendre son fonds de commerce. Donc ça y est, c'est fait. Et Claude Godard, figurez-vous que nous avions reçu en septembre dernier, qui avait commencé d'ailleurs à la librairie Arcade et qui ensuite a fait partie de l'équipe fondatrice de BD Ciné avant que ça devienne album. Album qu'il a quitté en septembre dernier, et on lui avait demandé gentiment s'il voulait bien justement à partir de là parler de manière un petit peu dépassionnée de son métier de libraire de ce côté-là. Et ben on a appris que ben le virus de la bande dessinée l'a repris, alors qu'il était pas sûr de revenir sur la partie vente en elle-même, puisqu'il a monté carrément une librairie bande dessinée jeunesse. C'est dans le quartier Saint-Cyprien, à Toulouse, toujours, 11 rue Villeneuve. Ça s'appelle Les Petits Ruisseaux. Et donc, eh ben, on lui souhaite. On lui dit merde. Voilà. On lui souhaite bonne chance. Il avait dit un peu ce qu'il pensait du métier et tout ça. C'était donc dans l'émission qui a eu lieu fin septembre dernier. Peut-être occasion, à partir de là, ben, de voir s'il aura une autre image. Non pas cette fois-ci en tant que gérant, mais en tant que patron. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Ça fait juste un peu bizarre de voir ben, d'un côté une librairie qui ferme et puis de l'autre côté eh ben, Claude Godard qui ouvre une nouvelle librairie excentrée, je veux dire, parce que c'est vrai que les librairies de Toulouse de bande dessinée sont plutôt centrées. Là il est de l'autre côté, il est rive gauche. On verra ça, c'est dans le quartier Saint-Cyprien, Les Petits Ruisseaux, rue Villeneuve. Bien sûr que j'arrête pas de dire des « e », j'avais pas écrit mon texte. Regarde, franchement, j'ai écrit 6 lignes et la chronique que j'ai faite du psychopathe au pied levé pour remplir, etc., il y a 0 ligne, voilà, il y a rien. Donc forcément que j'ai dit des « e ». Ah, qu'est-ce que vous croyez ? Bonjour Ultimatum.
Bonjour Descritch.
Bonjour du sport. Allez, plus vite, hein ?
Bonjour.
Oui, dans le micro, c'est beaucoup mieux. Oui, parce que du sport a un daltonisme, donc des fois, il parle dans le vert au lieu de parler dans le jaune. Non, c'est la mauvaise blague, bien sûr. On va entamer la sortie bande dessinée, peut-être l'unique chronique de cette émission. Avec, avec un bouquin que l'on avait récompensé, que l'on avait reçu d'ailleurs sur cette antenne, qui avait été récompensé par le jury du Conseil Général des Jeunes de la Charente, avec Actua BD. Il s'agissait de Romain Hugo, dessinateur du Grand-Duc, scénarisé par Yann, et on en est, eh ben, on en est au 3e tome, et c'est la fin en fait de cette trilogie. Le Grand-Duc, donc 3e tome, s'appelle Wolf et Lydia, c'est dans la collection Cockpit chez Paquet. Et ben, c'est l'histoire d'aviateurs hein, pendant la Seconde Guerre mondiale sur le front de l'Est. Et les événements se précipitent. Les castes nobiliaires que sont les pilotes de chasse commencent à tomber de leur estrade. La guerre est bientôt terminée. Et soit le régime va disparaître, soit le régime est gêné de les avoir mis au-dessus des masses laborieuses. Le Grand-Duc, c'est l'officier de l'armée de l'air allemande, Wolf. As de l'aviation, aristocrate issu d'une famille noble, il obéit à contre-cœur à un état-major dont il considère la stratégie dangereuse et aussi anti-nazi plus que convaincu. Il se faisait déjà mal voir par ses officiers en ayant fait effacer la croix gammée de son avion, ne considérant que seuls les insignes historiques de la Luftwaffe comme légitimes. Et depuis la perte tragique de sa femme et de sa fille dans les terribles bombardements de Dresde, il a fait peindre en noir la queue de son zinc. En face de lui, Lilia, une pilote soviétique audacieuse qui a commencé sur des biplans et qui se retrouve désormais dans la chasse de l'armée rouge. Surnommée la sorcière rouge, c'est une as qui a montré qu'elle méritait ce poste au-delà de sa promotion pour les raisons idéologiques, parce qu'elle était prolétaire et femme. Janvier 1945, pour soutenir sa contre-offensive dans les Ardennes, l'armée allemande tente de reprendre la supériorité aérienne sur les Alliés. C'est l'opération Bodenplatte, qui sera la dernière grande opération de l'armée de l'air nazie. Mal préparée, défavorisée par la météo, improvisée, désespérée, elle sera un échec important où les pertes allemandes seront largement plus nombreuses que celles des forces alliées. Non seulement un tiers de la chasse sera abattu, mais un nombre important d'as et d'officiers nazis seront tués. La Luftwaffe est donc sérieusement désorganisée, recrutant déjà de jeunes pilotes complètement inexpérimentés. Alors que l'Allemagne nazie n'a plus que quelques semaines à vivre, la rage de Wolf est une bonne occasion de propagande pour Berlin. Décorer l'un des derniers as qui reste et lui mettre entre ses mains l'une des toutes dernières merveilles de l'industrie allemande. Oui, mais est-ce que c'est ça qui va sauver le Reich ? Et un des pilotes de son escadrille, as, mais lui aussi juif, ne peut supporter ce qu'il entend sur la solution finale. Et il fait part à Wolf de son intention de déserter. Hélas, la conversation sera entendue. Côté soviétique, pour Lilia aussi, la chance commence à tourner. Sa chance insolente qui fait qu'elle a plusieurs fois été abattue, capturée par les Allemands et a réussi à fuir. Il n'en fallait pas plus pour que les commissaires du peuple se posent des questions, surtout que le destin a une fois de plus mis en présence Wolf et Lilia. Graphiquement, c'est toujours aussi bien léché. La maîtrise graphique de Hugo est toujours aussi impressionnante, à la fois pour mettre en scène les belles gueules et les gueules cassées, mais aussi pour montrer les magnifiques mais mortelles joutes aériennes. Roman Hugo et Yann, le Grand-Duc, conclusion de cette trilogie, Wolf et Lydia, c'est dans la collection Cockpit chez Paquet. Et ils l'ont très vite consulté, je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues.
Oh bah moi... Moi je suis méga fan, alors c'est dans la lignée des autres. C'est super et je pense que ça fait encore froid dans le dos l'histoire, donc, d'après ce que j'ai vu.
Je trouve que justement il aurait pu aller
plus franco
et tout ça, mais c'est, ça reste, je vais dire, extrêmement intéressant de ce côté-là. Enfin voilà quoi, c'est-à-dire que il y a, bon, il y a une scène de cul d'ailleurs avec je pense une petite erreur.
Deux, il y en a. Oui, on les a repérés tous.
avec une petite erreur d'ailleurs, il me semble de proportion, mais
quoi, elle est trop gros sein, non.
Un ange passe, je veux dire. D'accord. Un biplan passe. Mais d'un autre côté, il arrive par contre à mettre en scène les combats aériens d'une manière hallucinante, c'est-à-dire à faire une case pleine planche et on a des détails mais vraiment pratiquement à perte de vue et on reste absolument halluciné graphiquement, enfin bon voilà quoi, Romain Hugo c'est le mec qui étonne toujours par la qualité de son dessin. Alors cette semaine, comme je l'ai dit en intro, Monsieur Ultimatum a dit « Oh bah on va se faire
déclassement quoi.
Un déclassement, ouais.
Qu'est-ce qu'on parle de quoi là ? Déclassement ou de quoi ? De janvier, qu'est-ce qu'on fait ?
Ah, pour moi c'est sur l'année 2010.
Non mais je parlais de ça aussi, donc on fait les classements d'abord.
On fera peut-être un break, sur l'occasion. Allez. On va mâchouiller pendant la pause musicale. Donc on rappelle que le gage de la galette des rois, c'est qu'il faut aller voir une bouse immonde. Sauf que l'an dernier, la pâtissière, c'est elle qui s'est retrouvée avec la fève et qu'elle a dit « Non, je suis pas envie d'aller le voir ».
Non, elle a pas dit ça. Elle a dit « C'est un scandale que celle qui a fait la galette se retrouve condamnée à aller voir le gage, donc je ne m'y prête pas ». Donc voilà. C'est une lâcheuse. Si tu nous écoutes...
Tu te débrouilles après.
En tout cas...
Je sais qu'on a relativement peu souvent mangé après l'émission chez toi.
Ah mais c'est arrivé. Oui. Alors j'ai préparé une petite liste de films dont nous parlerons tout à l'heure.
Sachant que ça a été fait au dégoté, hein. Voilà, ça au a dégoté, été fait à 11h10 et il voilà. M'a dit non mais ça va être dur à trouver, etc. Si si, il va sur Allociné, les films les plus attendus.
Si, regarde. Non,
et les films les plus attendus, il y avait des sacrées merdes
ouais,
déjà.
J'ai pas fait que les films les plus attendus, j'ai dégagé une liste de films qui font peur. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certains, franchement, je voudrais pas être celui qui va tomber sur la fève. Hein. Parce que normalement, si on le fait.
Déjà l'an dernier, c'était gratiné, hein, la sélection.
Si, normalement, l'année dernière, c'était Le Baltringue avec Vincent Lagaffe. Après, j'avais fait une liste subsidiaire en disant si t'as pas de couilles d'aller voir ça, tu peux aller voir autre chose.
Donc bah là, non, elle avait pas de couilles, forcément.
Donc, oui, voilà. Donc là, j'ai pas dégagé un film qui fait vraiment plus peur que les autres, même si j'ai une petite idée. Mais j'ai été gentil, il y a des films qui sont plus passables que d'autres. Mais ça, je sais pas, est-ce qu'on en parle maintenant ou on en parlera tout à l'heure, peut-être.
Peut-être tout à l'heure.
Ouais.
Donc, moi, j'ai commencé par un top BD. Seulement, il se trouve que dans l'émission du 18 décembre dernier, si vous vous en souvenez, je sais, elle est pas encore en ligne au moment où je parle, j'ai un petit peu de retard.
Et si c'était la seule?
Bon, il y a celle du 11 et celle de samedi dernier aussi. On avait fait un top 5. C'était tout simplement ma sélection que j'ai fait pour Actua BD à destination des jeunes pour le prix Actua BD, Conseil Général des Jeunes de la Charente. Donc forcément, on avait eu une petite limitation. Donc je vais le rappeler rapidement. En cinquième, il y avait Freak Squeal, tome 3. En quatrième, Bakuman. En troisième, plutôt en second, Tortuga, et en premier, Black Sad. Sachant que c'est censé être pour des jeunes, en même temps qu'on ait une chance peut-être d'avoir les auteurs qui viennent voir les jeunes. Bon, je sais que pour Bakuman et Pluto, c'était plutôt audacieux et osé, voire même aucune chance. Mais comme j'étais le seul à avoir voté pour ces albums, je savais qu'ils allaient pas rester, mais je voulais équilibrer. Et en même temps, bon voilà, que ça puisse vous servir de liste d'achat pour Noël. On ne sait jamais, si jamais vous ne savez pas quoi offrir en quatrième vitesse pour votre petit cousin, vos petits neveux ou arrière petit neveu. Et oui, l'auditoire du supplément week-end vieillit. Mais d'un autre côté, faire un top 5 à partir de là, la gageure, c'était de se dire, ouais, non, on va pas prendre ce que j'ai déjà sélectionné. On va prendre les suivants. Donc, il y a un petit peu plus adulte. Et puis, d'un autre côté, ça a été très difficile de faire le classement. Il y avait des bouquins que j'avais vraiment écartés parce que, voilà, c'est des séries longues. Donc, ça aurait été dommage de faire lire à un jury jeunesse un cinquième tome ou un 23e tome d'une série. Donc, c'est pour ça que je les avais écartés. Donc ben voilà, donc il a fallu faire un classement, et qui dit classement dit top, et qui dit 5 dit
le top 5. Numéro 5.
Avec en 5 Paulette Comet de Mathieu Sapin et Christian Rossi. Paulette Comet, c'était un premier tome qui s'appelle Justicier à mi-temps, c'était sorti dans la collection Poisson Pilote chez Dargaud. L'histoire, c'est Paulette Stravinsky, une étudiante en deuxième année de droit, et comme les loyers sont très chers à Paris, et bien au-delà d'un budget d'un étudiant, elle a la chance incroyable de vivre dans l'appartement de sa mémé avec sa mémé. Mais là où elle ne mesure absolument pas sa chance, c'est qu'elle va vivre une aventure extraordinaire. Un soir, alors qu'elle sort de la douche, un livreur lui remet un paquet mystérieux. J'ai oublié de préciser que le paquet est siglé Easy SM, et là où la pauvre Paulette a une chance fabuleuse, c'est que sa mémé est trop artitrique pour se lever, trop bouchée pour comprendre ce que dit sur ce palier, trop myope pour voir ce qui se passe en dehors de sa télé. Bref, Paulette croit à l'erreur, mais non, c'est bien sa chance. En fait, le livreur est un voyeur fétichiste qui la mate depuis des mois sur le toit en face et lui a offert une combinaison moulante, des bottes de cuir, un loup et une paire de menottes. Sa chance ne s'arrête pas là. Pratiquement tout est à la bonne mesure. Mais alors qu'elle a fini d'enfiler sa belle tenue, elle est attirée par les miaulements d'un chat sur la gouttière. Et là, la chance ne s'arrête pas. Elle glisse et tombe 5 étages plus bas sur la tête de Raymond La Science, un malfrat dans l'exercice peu recommandable de ses fonctions criminelles. Non seulement elle est indemne, mais en plus, elle est tombée à point nommé pour arrêter net la carrière de ce malfaisant. Et joie des chaînes d'infos continue, elle se retrouve instantanément proclamée héroïne du 13e arrondissement. Bref, c'est un gros délire à la fois autour des justiciers et à la fois de l'imagerie SM et des médias. C'est une grosse crise de fou rire. Donc le premier tome de Paulette Comet s'appelle Justicier à mi-temps. C'est dans la collection c'est dans la collection Poisson Pilote chez Dargaud. Mathieu Sapin au scénario et Christian Rossi au dessin. Et je ne sais pas ce qu'en pensent mes deux autres après coup, puisque vous les avez lus.
Oui.
Alors, oui. Cinquième place. Déjà, est-ce que oui ou non vous en recommanderiez la lecture?
Oui.
Oui.
Est-ce que, franchement, ça vous a fait bander?
Non.
Non, mais je veux dire, de le lire, bander,
ah, bon,
de rire.
Okay. Hein. Ah, d'accord. Oui.
Oui.
Oui, parce qu'elle a quand même un corps sympa, la nana. Ah, c'était pas dans ce sens-là, pardon.
Oui, non, pardon, c'est... excuse-moi, j'ai oublié de préciser, oui, effectivement.
Non, si. La BD est à la fois rigolote et toute fraîche. je dirais toute fraîche, puisque elle est tellement naïve et cruche que ça en est rigolo. Mais après, c'est vrai que les rebondissements de situation et tout, c'est déjà, il faut juste qu'elle boive un petit coup dans le nez et que finalement, elle est tout à fait open, on va dire. Donc c'est marrant. Mais attention, ça ne, tout ne tourne pas autour du sexe. Hein, attention. Voilà.
Mathieu Sapin, Christian Rossi, Paulette Comet, donc en poisson pilote chez Dargaud. Ça, c'est mon, c'est marrant, mon cinquième de mon top.
J'ai la sensation d'avoir été censuré dans ce que je disais. Non, non, je dérapais pas, hein, c'était...
Numéro 4.
Le numéro 4, c'est Christian Durieux et Bruno Vessel, à la fois au scénario et au dessin. Félix ou le grand nom, chez Quadrant. Le vieux Félix, il vivait reclus dans sa maison sur la place du village, ne sortait quasiment jamais, personne ne lui connaît de famille, ou même ne se souvient quel métier il a exercé. En fait, peu de gens l'ont vu dans le village. Et voilà qu'un jour, il sort de chez lui avec un large pinceau et de la peinture rose. Devant ses voisins stupéfaits, il peint un grand cercle au croisement des deux grandes rues devant chez lui et va sortir ses meubles pour les mettre dedans, comme s'il avait construit une nouvelle maison. Quand quelqu'un lui propose de l'aider, il répond agressivement avec son fusil, barre le passage des deux routes et proclame que désormais, il est chez lui, dans ce cercle. Il vient de déclarer la guerre à la connerie et n'accepte personne dans son nouveau chez-soi, si ce n'est Jérémy, le brave facteur. Et à partir de là, tout va déraper, puisqu'on est entre les deux tours des élections et que les médias se sont dit « Ah, c'est l'occasion de faire monter l'histoire en sauce ». Félix sous le grand nom, Christian Durieux, Bruno Vessel. Du sport ?
Oui.
C'est moi. Ton opinion.
Ah non, 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 mais moi ça m'a bien plu, quoi. C'est un humour assez fin quand même, hein. Tel que tu décris, quoi. Le pitch là, ça a l'air un petit peu gros. On peut se dire, ben, à quoi ça va servir, où il veut en venir, où ils veulent en venir, et puis bon, ben, on se rend compte qu'au bout d'un moment et tout, quoi, ça fonctionne jusqu'à la fin, quoi. Et,
c'est une mécanique
c'est assez
infernale.
Jouissif, hein. Ouais, ouais, non, 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 c'est vraiment bien fou. C'est bien écrit, je trouve que c'est très bien écrit, quoi. Mmh. Après, bon, bah, le graphisme, bon, est-ce qu'il est, on peut aimer, on peut ne pas aimer, mais bon, bah, fonctionne vraiment.
Il est un
bien.
Peu rough, mais il marche bien. Et puis, c'est vrai que la mise en scène du documentaire a posteriori.
Oui, oui. Non, mais justement, c'est ça fort. Qui est vraiment très très bien foutu, en fait. Hein. C'est pas l'histoire linéaire à laquelle on pourrait s'attendre, c'est bon, bah, quelque chose qui est quand même vachement travaillé, je trouve. Hein.
Et moi, en fait, ça m'a fait un effet bizarre, puisque moi, quand j'ai feuilleté la BD, je me suis dit, effectivement, c'est un style très rough. Et je me suis dit, c'est bien qu'il y ait des BD comme ça, et c'est intéressant, mais est-ce que j'ai envie de la lire pour autant ? Alors je me suis dit, bon, allez, on va donner sa chance. Et puis au bout de deux pages, je me suis dit, ah ouais, quand même. Et finalement, le style rough, tu l'oublies, finalement. Mais même le style rough, en soi, c'est pas une tare, c'est juste que tu l'oublies. Et comme tu disais, c'est surtout l'écriture, en fait, qui marque. Après, bien sûr, le style est en adéquation, donc ça va. Mm.
Christian Durieux, Bruno Vessel, c'est donc mon quatrième du top 5 des BD amateurs éclairés, voilà, de l'année 2010. Et c'est édité chez Cadran. Bah alors, qui est le...
Numéro 3.
Eh ben le numéro 3, c'est Hokusai, le biopic par Shotaro Ishinomori dans la collection Sensei chez Kana. Shotaro Ishinomori du sport, lui il a flashé immédiatement sur une autre œuvre qui a été traduite chez le même éditeur et dont on a découvert enfin en France, puisque ça date quand même de 67-68 au Japon, c'est Cyborg 009.
Ouais.
Et Hokusai, eh ben, c'est le biopic du peintre Hokusai, qui est un peintre qui a eu une énorme influence sur les artistes japonais à une époque où l'archipel était replié sur lui-même, mais aussi international. Lui-même s'était intéressé aux techniques des Gaijin, comme la perspective, le papier aquarelle, le bleu de russe, et en même temps, il était éternellement insatisfait de son travail. Mais commençons par le présenter. Hokusai est en fait un pseudonyme qu'on pourrait traduire par « le vieux fou de dessin ». Dans tous les sens du terme, car à une époque où l'espérance de vie dépassait difficilement les 50 ans, il a vécu 90 ans, ce qui est encore à notre époque un âge plus que vénérable, mais surtout, il n'a jamais arrêté de dessiner quand il a commencé. Hokusai a changé maintes fois de nom, au gré de son humeur, quand il changeait de technique de dessin, voire parfois pour échapper à un mari jaloux. Il a déménagé plus de 90 fois, son atelier a pris feu, certains de ses travaux ont été détruits par rage ou dans une bagarre. Bref, sur les 30 000 dessins, pardon, excusez-moi, que nous connaissons de lui, on est sûr d'en avoir qu'une infime partie. Oui, mais ce vieux fou était un queutard, c'est en assoiffé de sexe, en vieil obsédé, que le décrit Ishinomori. une biographie iconoclaste avec des moments de comédie, mais en fait assez proche du bonhomme. Quand on se souvient de ses œuvres très suggestives comme le très troublant Songe de la femme du pêcheur, une femme, un poulpe, non seulement il a écrit un recueil qu'il a intitulé Manga, mais a aussi popularisé le hentai. Et il était aussi bien poursuivi par les Marie Dupé, par les modèles qu'il a délaissés, que par les mécréants qui voyaient en lui une machine à cash, une machine à dessiner et bailler des billets de banque par sa simple signature. Il avait aussi cette manie de changer de nom quand ça lui chantait. Peut-être aurait-il mieux vécu, ou peut-être il n'aurait pas été affamé de dessiner tous les jours. Okusai de Shotaro Ishinomori, donc Dus.
Vas-y. Bah, moi ça m'a carrément éclaté, quoi. C'est-à-dire que je connaissais pas l'histoire du bonhomme et tout. Et en fait, quand on prend le bouquin au départ, on se dit bon bah ok, quoi, c'est encore un manga et tout, pas de problème et tout. L'auteur a vraiment de l'imagination, ça vaut le coup et tout. Eh ben non, c'est pas de l'imagination, c'est une biographie. Bon, un petit peu romancée, c'est vrai, mais c'est quand même l'essentiel. Et Okusai est quand même l'un des maîtres de l'estampe, l'un des maîtres du dessin. Parce qu'on peut trouver du Okusai, mais dans les livres d'art qui coûtent la peau du cul, avec des super reproductions et tout. Quoi. Ça existe, ça se trouve, il y a même une version française qui existe.
Je sais que Dali s'était plus ou moins intéressé là-dessus, et puis même les dessinateurs actuels, que ce soit Masamune Shirow qui avait fait une illustration, même plusieurs, de Ghost in the Shell, où il s'était inspiré justement de sa série manga, bien même des dessinateurs européens qui s'inspirent de sa suite vague, on voit dans le fond le Mont Fuji, c'est un truc qui est extrêmement
une repris. Des énièmes versions vues du Mont Fuji, ça s'appelle, je sais plus comment, c'est 38 ou je sais plus combien. Là.
Oui, exactement.
Oui, quand il apprend à ses élèves comment dessiner le Mont Fuji et tout, ses élèves lui disent c'est la même chose. Elle dit mais non, c'est chaque jour il change et tout. T'as rien compris. Enfin bon, là c'est ok, on comprend un petit peu mieux le personnage.
Et surtout Shotaro Ishinomori a un des styles de dessin qui est très propre, qui lui est vraiment particulière. Hein. C'est quand même du manga des années 60, hein, mainstream. Donc ça se rapproche un peu de ce que fait Tezuka à ce moment-là. Mais des fois, il va dessiner une cascade et ensuite il va dessiner la cascade telle que l'aurait dessiné Okusai, puisque des fois les dessins ont été perdus et tout, mais il va justement montrer les deux visions des choses et c'est bluffant. C'est étonnamment, c'est bluffant, c'est vraiment des leçons de dessin.
Si tu me l'ôtes de la bouche, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est que tu vois la BD, qu'en plus, enfin je suis pas trop d'accord, enfin c'est un peu le style Tezuka, mais Tezuka c'est encore super sobre et simplifié, alors que lui il va vachement dans les détails.
Plus disneyen, ouais.
Alors tu vois, c'est un gros pavé, alors tu dis oh là là, bon, allez, un bouquin d'été, t'as pas de télé et tout, tu le lis, et puis ah ouais, quand même, c'est costaud graphiquement, et puis là tu dis ouais, c'est bon, c'est super, et là au détour d'une page, t'as une pleine page avec un truc de Okusai, bah tu dis, ok, d'accord, c'est, ok, bon, mais je vais me remettre au dessin. Et voilà, c'est la claque, quoi. Et en plus, t'imagines, le mec, en fait, c'est quasiment une marque à l'époque. Il prend un nom, il commence à faire sa carrière et tout. Il dit, ah oh, ouais, non, mais c'est bon, je change de nom et tout. Et c'est comme si le mec, il crée Nike aujourd'hui, et puis il dit, ah, finalement, j'ai créé un autre truc. Mais non, mais Nike, ça. Non, mais c'est bon, vous oubliez, c'est comme ça. Bon, ok.
C'est le branding, n'avait rien à foutre. Ce côté-là, c'était un sacré punk. Ouais. Que tard, mais c'est hallucinant.
Okusai était un punk que tard.
Voilà. Tu peux la noter. Dans la collection Sensei chez Kana, donc c'est dans le troisième. Donc le Okusai de Shotaro Ishinomori. Dans mes recommandations 2010. Mais il reste deux places. Je sais, je le reconnais.
Numéro 2.
Et en deuxième, eh bien, les voyages d'Epao, c'est le cinquième plus exactement. Vink avait créé Le Moine Fou, qui était en 10 tomes. Et les voyages d'Epao, c'est le cinquième tome de la suite, et c'est la fin, Un matin pour tout horizon, chez Dargo. Epao, c'est la fille de marchands italiens qu'elle a jamais connus, puisqu'ils sont morts emportés par un naufrage. On est dans la Chine du 16e, 17e siècle. Son teint et ses cheveux sont totalement inhabituels dans la Chine impériale. Ce qui fait que même quand elle hérite, malgré elle, de l'art martial du moine fou, elle deviendra encore plus un personnage à part. Imaginez des techniques de combat qui vous font découvrir le monde autrement, qui vous donnent une force inhumaine, mais qui malheureusement vous condamne à la folie. Cette histoire-là est racontée donc dans Editon de l'excellente saga Le Moine Fou. Mais un personnage aussi fort qu'Epao ne pouvait pas s'arrêter là. tourmenté par la malédiction, cherchant ses racines, Vink nous a proposé cette suite où Hepao, devenue superbe femme, n'en restait pas moins une guerrière d'exception. Une mine de connaissances, mais une personnalité extrêmement instable. À la fois fuyant ses ennemis et recherchant ses racines, Hepao traverse l'Asie pour rejoindre Venise. Elle a connu une sagesse sur le toit du monde et de nouvelles techniques. Elle traversera l'Asie pour l'Europe. C'est sur les rives de la Méditerranée que nous laisserons le destin d'Hepao. La fin est, à mon sens, à nous laisser sur la fin, justement. Et ceci un peu comme le décalogue, le moine fou. L'histoire est accélérée, beaucoup trop accélérée. C'est vraiment dommage, alors que graphiquement, cela reste une claque. Voyage d'Hepao, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire sur le moine fou et Voyage d'Hepao. Donc je me sens un petit peu seul, mais en tout cas.
Oui, tout seul. Par contre, tu donnes vachement envie de la lire.
C'est surtout le style graphique de Vink, puisque c'est vraiment l'aquarelle. C'est vraiment impressionnant de ce côté-là. Et on se dit, ouais, le dessin est un peu statique, etc. Et puis quand il y a un mouvement, il le fait dans les flous. Et là, on se dit, putain, mais c'est vrai qu'il a une patte impressionniste monstrueuse. Et en même temps, il va s'imprégner un petit peu des styles chinois et tout le reste. Vink, de ce côté-là, est vraiment très impressionnant. Il faut dire que Vink est un dessinateur qui vient en Belgique. Mais attention, il n'est pas chinois, puisqu'il est vietnamien, si je me souviens bien. De ce côté-là, il tue définitivement. Et les voyages d'Hepao, c'est un truc qui est impressionnant. Dans les deux premiers tomes, il est dans le style des années 80, justement, des dessinateurs, des nouvelles, de la bande dessinée dite adulte, un roman graphique, donc avec des contre-jours, des trucs comme ça, des effets sur le découpage et tout ça. Et puis après, au fur et à mesure, il va trouver sa voie. En même temps, justement, Hepao va apprendre à maîtriser, va découvrir l'art du moine fou, puisqu'elle ne découvre pas dans le premier tome. Et de ce côté-là, on reste absolument bluffé graphiquement. C'est vraiment un bonheur. De ce côté-là, moi je reste absolument fan. Sauf que voilà, c'est cette fin où elle traverse en catastrophe, elle part de l'Himalaya, elle redescend la Chine pour aller ensuite en Inde, pour ensuite traverser les royaumes perses et se retrouver en Terre Sainte. Ça va trop vite, c'est dommage, en un seul tome, c'était un petit peu enlevé. Donc, Les Voyages d'Hepao, tome 5, Un matin pour tout horizon, c'est chez Dargaud. Dessiné par Vink. Alors, qui est le premier? Sachant que donc j'avais plus ou moins prévenu c'était la fin d'une saga en 21 tomes.
Ah, attention, qu'on est d'Ascrich, sachant qu'il a eu un poster dans sa chambre de l'héroïne.
Ah, tu dis c'est une héroïne, bon, ok.
Il y en a deux, ouais. C'est un couple de héros.
C'est un couple de héros. Allez, on le dit, on l'a trop dit, donc allez, on l'envoie.
Le top 5. Numéro 1.
Et ben donc la bande dessinée qui pour moi a été vraiment le livre attendu de l'année 2010 et a vraiment été une belle découverte. C'est Valérian et Laureline, L'Outre-Temps, dessiné par Jean-Claude Mézières sur un scénario de Pierre Christin et donc chez Dargaud. Valérian et Laureline qui donc sont des SDF depuis 1986 puisque la Terre ne sera pas détruite dans un immense cataclysme. Des mercenaires qui acceptent des boulots comme ils viennent, c'est-à-dire bien souvent de manière louche. Mais bon, faut bien payer l'entretien de leur vaisseau. Mais ils n'ont pas perdu espoir de retrouver la Terre. Grâce à leurs contacts, ceux qui sont restés leurs amis leurs informateurs, le couple des ex-agents spatio-temporels pense avoir trouvé une piste. Mais la galaxie est à l'aube d'un immense changement. Les Wolocs, les immenses monolithes sortis du grand rien, deviennent de plus en plus nombreux et imposants. Ces blocs aux dimensions titanesques ont lancé une guerre contre l'univers connu. Traversant l'espace de leur immense volume, ils bombardent littéralement différentes capitales. Même la salle des écrans, le lieu de la démocratie galactique à point central, a été écrasée par leur masse. Or, il est apparu à Valérian et Laureline que la Terre qu'ils cherchent depuis sa disparition sera retenue quelque part dans le grand rien, et qu'il serait possible d'y accéder grâce à l'outre-temps. Un petit artefact précieusement gardée par les pauvres Limbos. Serait-il possible de manipuler une fois de plus l'espace-temps pour forcer le destin ? La fin va être ouverte, mais la galipette finale est intéressante. Et la conclusion de la série Valerian et Laureline va être un très joli conte. Dus ?
Ben, je sais pas, je l'ai pas lu, quoi. Enfin, disons, moi je connais Valerian et Laureline parce que ça fait partie de ma jeunesse. Mais
celui-là... T'es pas allé au-delà, donc.
Voilà, quoi, c'est tout. Hein.
Moi, je vais balancer un gros caca. Je n'ai jamais lu un seul Valérian de ma vie.
Et heureusement...
Mais y toi, ça vaut le coup.
Ne regarde pas la série animée par Luc Besson. Parce que là, elle a... Enfin, ils l'ont dit dans l'interview, hein, Mézières et Christin. Hein. Ils l'ont dit fort diplomatiquement. Et c'est vrai que moi, j'ai été absolument écœuré. Il faut dire que la seule diffusion en clair que l'on a eue en France, c'était en plus sur Game One qui a diffusé l'épisode 18 et puis l'épisode numéro 5. L'épisode 12 et puis l'épisode 5. L'épisode 1, puis l'épisode 5. Puis l'épisode final, puis l'épisode 5. Puis...
Ah, l'épisode 5 revenait
enfin,
une fois sur deux.
Il y avait un épisode qui revenait une fois sur deux. C'était une diffusion qui était complètement catastrophique. Canal Plus était censé le diffuser en clair sur la chaîne Amiral. Ils l'ont passé sur Canal Plus Family en crypté. Ça n'est même pas dans les horaires en clair. Et France 3 était censé le diffuser. Je crois que France Télévisions ne l'a toujours pas diffusé. Donc c'est dire si vraiment de ce côté-là, il y a malaise auprès des coproducteurs. C'est un petit peu dommage. Donc pour moi, Valerian et Laureline, tome 21 de la série et la conclusion en beauté, sachant que à partir du tome 16 jusqu'à 20, eh ben, y avait des redites, il n'y avait plus vraiment de création. C'était un petit peu dommage et tout ça. Et il n'y avait plus de nouvelles créations de Bessières et tout le reste. Et ben finalement, Pierre Christin et Jean-Claude Mézières ont réussi non seulement à renouveler l'histoire, mais en même temps à donner une fin ouverte, étonnante, et en faire ben justement une très très belle porte de sortie pour Valérian et Laureline.
Après, il va y avoir Valérian de Troyes, Valérian des Étoiles.
Allez savoir. Je ne tiens pas à le spoiler. Mais donc, c'est chez Dargo, l'outre-temps, et pour moi, ça a vraiment, vraiment, vraiment été le bouquin... Qui a réussi en plus, alors que voilà, la série se mourait doucettement d'une manière triste.
Et se ben, mourait doucettement, c'est pas mal.
Oui, j'essaie d'inventer des nouvelles conjugaisons. Appelez-moi le Jean-Claude Van Damme de la chronique littéraire. Mais en tout cas, et ben voilà, ils ont réussi à. Ça a été l'immense surprise parce que justement, on ne s'attendait pas à ce que ça soit comme ça, et puis ils ont mis le temps quand même. Hein. Par contre, c'est vrai, graphiquement, eh bien, Mézières sur la fin, voilà quoi. Mais il a réussi à trouver l'astuce graphique qui fait que, ben, justement, c'est vraiment étonnante. Cela clôt mon top 5 des recommandations BD pour l'année 2010 que l'on n'a pas faites dans les recommandations BD pour la littérature jeunesse. Et en attendant, ben, on va peut-être faire.
Bah d'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord avec nos top 5 et que vous avez vos propres entrées de bande dessinée, que vous avez, ah, c'est un scandale, celle-là vous l'avez pas, vous n'avez pas parlé et tout, eh ben,
ouais, ben on fera toujours des mécontents de toute façon.
Voilà, mais vous pouvez nous appeler ou nous écrire sur le site. Alors nous appeler, c'est le 0561 580 580, et pour nous écrire.
On n'est que pendant le direct et ça va être pénible. Et en plus là, on a une émission qui est assez lourde, donc plutôt nous écrire et on vous rappellera pendant le direct si vous le souhaitez.
Pour nous écrire, c'est aller sur le site supplementweekend.fr.
On serait vraiment fan justement des audits de ce côté-là, que on ait un courrier des audits lecteurs qui nous reviennent sur la gueule pour nous dire un peu ce que l'on en pense. On va ouvrir donc la fameuse galette frangipane ou
non, brioche. Non, ah, non, on est ici, c'est brioche, voilà, c'est pas frangipane.
Et j'ai la boisson gazeuse, de la bière à consommer sans modération, puisque c'est la bière au gingembre.
D'accord. Toi, tu as des envies pour après l'émission, c'est ça?
Bah, c'est de la ginger ale, voyons.
Non, mais et revenez aux allusions. Enfin, voilà, quoi. On va être obligé de foutre le macaron .16, ça va être pénible. Petite preuve musicale, c'est une découverte sur internet. C'est un groupe français qui s'appelle Dynamique, qui s'appelle Buffet Libre, pardon, excusez-moi. C'est Dynamique, pardon, c'est le nom du groupe. Buffet Libre, premier service. Donc c'est leur première, c'est une compilation qu'ils ont mis gratuitement sur internet sur le site bandcamp.com. On mettra le lien pour le faire découvrir. Et le morceau que j'ai choisi, figurez-vous que c'est un remix We Must Be Popular, remix d'un autre de leur morceau Ultra Bright Remix. Et on va dégainer le couteau. On a 5 minutes 25. Vous écoutez Radio AFMR 89.1 MHz.
Now you are listening to popular remix by THS from TFM Rock Band. Enjoy it.
Sur le supplément week-end.
chemin Pauline, vous avez 10 secondes pour marcher.
We must be popular. Ultra Bright remix par Dynamic Buffet, extrait de leur album disponible en libre téléchargement, Buffet Libre, Secret, Premier Service. Fuck you, SSM, et fuck you, les autres. Et fuck la Dopi, puisque c'est téléchargement légal. Voilà. Thomas, ma foi, qu'est-ce que tu nous as préparé de ton côté? Je sais qu'il est 12h50 et qu'on va largement déborder.
Déjà. Eh bien, je vous ai déjà préparé une petite liste, on en parlait tout à l'heure, de films qui font peur, que celui qui aura obtenu la fève de cette galette que nous sommes en train de déguster...
Il y a toujours le suspense, parce que pour être honnête, on a dit qu'il y aurait un 50% que ça tombe sur une de nos compagnes, puisque maintenant elle commence à participer au Super Weekend, donc ça va y aller sec. Vas-y.
Donc pour l'instant, aucun de nous trois n'a eu la fève, donc ce sera effectivement une de nos moitiés qui héritera du film. Donc, parmi cette liste...
On va quand même être obligé de les accompagner, donc, de se taper
le jeu.
Navet.
Voilà. Alors attention,
attention, est-ce que je lance le jingle?
Le jingle cinéma?
Oui.
Allez.
Tchita. Les Bouzes Cinéma, présenté par Ultimatum, le seul, le vrai, l'unique.
Alors, on commence. Alors, j'ai fait une liste par date, en fait. Donc, je commence par les plus proches de nous, et après, ça finira vers mai prochain. Donc, vous voyez, vous avez le temps de vous familiariser avec le fait d'aller voir certaines bouses. Hein.
Ouais, on a des dates de sortie qui vont jusqu'à août, mais la dernière fois qu'il y avait un film qu'on attendait énormément pour août et qui finalement est sorti en décembre-janvier. Hein,
D'accord. Alors, on va commencer par les films les plus attendus, son précédent film a cartonné. On parle bien sûr de Danny Boone.
Ouais.
Reine a déclaré de Danny Boone et avec Danny Boone et aussi Benoît Poulvord qui sort le 2 février, donc c'est pas loin. Attention. Alors au passage, c'est marrant parce qu'il sortira en même temps, le même jour, que le nouveau Aronofsky Black Swan et Tron Legacy.
Ouh.
Donc, alors déjà, par défaut,
je ne ferai pas de paris de style. Hein.
Moi, je ne dirais pas que notre choix serait porté automatiquement sur le Danny Boone. Mais s'il faut en passer par là. Ensuite, autre film qui fait peur, Halal Police d'État avec Eric Ramsey. Le 16 février. Oui, tu fais des gros yeux.
Ça existe, ça.
Oui, après rien à déclarer à la police d'État, voici un petit film qui s'appelle Les Voyages de Gulliver avec Jack Black.
Ah.
Alors pourquoi? Parce que je l'ai mis dans... Pourquoi est-ce que je l'ai mis dans les films bouse? C'est parce que la bande-annonce a l'air tout à fait à chier.
Et encore, moi, j'ai eu droit pendant deux jours à la télé non-stop, c'est-à-dire tout est post-pub, ils arrêtaient pas, c'est dans le genre « mets le pognon » et c'est vrai qu'il surjoue trop, t'as l'impression que tout repose sur lui.
Mais moi, j'ai été méga fan de l'adaptation faite avec Ted Danson.
Tout à fait, ouais.
Elle est super bien.
Ouais.
Donc bon, voilà. Bon, Jack Black, c'est Jack Black, mais bon.
Ouais, bah, et l'adaptation avec Ted Danson et tous les autres, c'est anglais.
Ah bah oui, et forcément. Alors, un autre film après, j'ai rien contre ce film, le pitch, il m'a l'air du réchauffé, mais il y a Nicolas Cage dedans, donc un film à Nicolas Cage, forcément, ça se met dans les bouses annoncées. Donc, ça s'appelle El Driver, de Patrick Lussier. Alors, est-ce que c'est un Canadien, est-ce que c'est un Français, je sais pas.
Il y a eu des surprises avec, avec
dernier,
Nicolas Cage.
Le dernier bon film qu'il a fait, c'était Lord of War.
Oui, là, oui, mais il y a eu des surprises.
Là, il y a le dernier Templier qui sort en ce moment. Alors, est-ce que c'est bien? Je sais pas, j'ai pas vu.
Il y a des mauvaises critiques sur ce film.
Ah, oui. Alors, après El Driver, j'ai sélectionné Big Mama 3 avec Martin Lawrence qui sort en mars prochain.
Aïe.
Ça, ça fait peur, ça, quand même. Hein. Voilà, bon, même si on n'a pas vu ni les deux premiers, je pense que c'est pas grave. Une autre suite ensuite avec Scream 4 de Derrière les Fagots qui fait bien envie de Wes Craven, toujours, le pauvre, qui sort le 13 avril prochain. Voilà, donc un petit Scream 4. Alors je pense que c'est le fleuron de la liste. Ah, peut-être
avec le Danny Boone.
Avec le Danny Boone, ex aequo. Alors c'est Justin Bieber, Never Says Never. Jamais dire jamais.
Oh non.
Ah si si.
Ah non, mais c'est une reprise d'un James Bond qui était déjà lui-même une reprise.
Ah, c'est pas mal ce que tu dis. Ouais. Ouais,
bah ouais. Oui, puisque à l'origine c'est un James Bond hors franchise,
oui,
parce
oui.
que le réalisateur avait obtenu le droit de reprendre le film qu'il avait déjà
Est-ce que c'était Never Say Never, le James Bond? C'était pas Never, notre truc avec Never, non?
Non, non, c'était,
non,
ça,
non, c'était
ça.
Jamais plus jamais. C'était
jamais plus jamais. Justin Bieber, jamais plus jamais.
Parce qu'en fait, l'histoire du titre est assez drôle. C'était, ça venait en fait, tout simplement, c'était l'époque où Sean Connery, on avait absolument marre qu'on dise qu'il faisait James Bond et tout. Et il a dit dans une conférence de presse, est-ce que vous allez refaire un James Bond? Il a dit Never. Jamais plus jamais, mais il est revenu.
Oui,
au
mais
galop.
Attention, parce que il faut bien regarder le James Bond Jamais plus jamais, parce que bon bah il dit effectivement Never Say Never à la fin du film, mais c'est dans l'intonation qui est qu'on voit ce qu'il veut vraiment dire quand il dit Never Say Never, et c'est là que c'est le.
Je crois qu'il le dit à deux, puisque le Never de à la fin c'est Kim Basinger qui le dit.
Oui, mais justement c'est l'intonation qui fait le qui donne le sens en fait.
En tout cas, ce qu'il y a un truc qui me fait rire à chaque fois que je vois ce film, c'est que entre temps c'est Roger Moore qui s'emparait de Bond, et il y a Q qui dit au Bond Connery, qui lui dit j'espère qu'avec votre retour nous allons à nouveau sombrer dans le sexe et la violence, et il lui dit je l'espère aussi.
Très très bonne vanne.
Et le dernier film, alors pour moi je pense que ce sera ça va vous surprendre, mon favori de la liste, si j'y vais. Bon, je prends pas trop de risques. Ce n'est pas le premier, le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième épisode d'une franchise toute récente. Ce n'est pas Saw, puisqu'ils sont déjà au Saw 7. Eh bien, je parle bien sûr d'une franchise avec un certain Vin Diesel,
ouais,
et Paul Walker. Et non, ce n'est pas les Triple X. Il s'agit de l'autre franchise. Donc, c'est Fast and Furious 5. Donc, il s'appelle Fast 5. Et à ma grande surprise, la bande-annonce a l'air de déménager sévère. Donc, voilà, j'ai mis quand même des films plus acceptables dedans. C'est vrai que j'avais mis Justin Bieber, ça faisait un peu mal au cul quand même. Hein. Moi, j'aurais même pas mangé la galette.
Voilà. Non, mais t'inquiète que les filles, elles y auraient été.
Ouais.
Non, je déconne. Je sais que ça... Christine, Chantal, non, elles auraient dit non.
Bah, ça dépend, peut-être que vous avez une petite nièce pour l'accompagner, aller son cadeau d'anniversaire, je sais pas. Bon, allez, bref. Voilà, donc la liste qui fait peur, une petite liste de films pour celui qui aura le plaisir de tomber sur la fève. Bah.
Celle.
Oui, mais oui.
On a fini nos gâteaux entre-temps.
Ouais, c'est vrai.
12h58.
Alors, nous continuons nos fameux top 5 d'aujourd'hui, de l'année 2010, avec cette fois-ci le top 5 au cinéma. Alors, si vous regardez un peu sur Internet, il y a plusieurs top 5 qui ont été faits par des journalistes, des blogueurs, des sites consacrés au cinéma.
Heureusement, on n'a pas déposé le concept pour eux.
Voilà. Alors, c'est vrai que j'aurais pu parler de Social Network. Je suis passé totalement à côté du film, je suis pas entré dedans, donc je n'en parlerai pas.
J'en parlais tout à l'heure, justement, à propos du psychopathe, puisque tu l'as entendu sur la radio.
Ensuite, j'aurais pu parler d'Invictus, qui est, sur certains aspects, assez réussi, mais c'est vrai que le côté rugbystique, Eastwood, il comprend pas trop grand-chose là-dedans, donc c'est un peu dommage.
Et puis, une radio du Sud, merde.
Voilà, et puis Invictus, bon, c'est sympa, mais ça casse pas des briques non plus. J'aurais pu parler de Toy Story 3. C'est vrai qu'un Pixar, le Pixar de l'année qui ne figure pas dans le top 5, ça fait bizarre, mais je jouais le blasé là sur le. Il y a quelques bons moments, la fin est super émouvante, mais je trouvais le côté dans la garderie un peu trop. Bah,
c'est linéaire quoi.
Voilà.
On n'a pas vraiment de surprise dans ce Toy Story 3.
C'est tout à fait ça, tu m'ôtes les mots de la bouche. Ensuite, j'aurais pu parler de films plus, on va dire, plus gros. Mais néanmoins sans surprise. Alors
tu veux dire testostéroné
voilà, par exemple. Alors Robin des Bois, ouais. Iron Man 2, ouais, trop bavard. Le très sympathique quand même, Sherlock Holmes. Bah, est-ce que ça vaut le coup qu'il fasse partie du top 10 ou du top 5? Peut-être pas. Les chevaux du Pentagone qui était assez rigolo, mais bon voilà, 3 mois après tu t'as un peu oublié le film. Et Gainsbourg Vie Héroïque, qui était le premier film de Johannes Farr. Ouais. Voilà, ça mérite pas qu'on s'y attarde. Par contre, j'ai fait dégager 12 films. Donc, on n'est pas encore dans les
oh là
le
là
top 10. C'est juste pour faire mention de Expendables. Alors, Expendables de Sylvester Stallone.
Balls.
Voilà.
Dans la manière dont tu le dis, voilà, ça me fait rire.
Expendables, voilà.
Parce que normalement, c'est Expendable.
Expendables, oui, voilà, Expendables. Ah, c'est pas mal, ouais. Alors, c'était quoi le film? Je suis le seul à l'avoir vu pour l'instant. Ouais, bon. Bah, vous verrez, bon, bah, pour moi, c'est des combats de merde. Un scénario trop con ou pas assez. Je sais pas. Pas assez de second degré, pas assez anthologique, alors. Sly, un petit conseil. On ne joue pas impunément avec les fantasmes des fans. Tu vas payer. C'est une grosse déception. Onzième. Alors, je pense pas que ce soit un film qui a été distribué dans les salles, mais il est sorti directement en DVD. Mais il a été projeté à la Cinémathèque. Il s'agit de My My Miracle, dont j'avais déjà parlé ici, qui est réalisé par Sunao Katabuchi, qui est un film d'animation japonais, et qui est vraiment très très chouette. C'est un chouette petit film d'animation qui a pour cadre la vie à la campagne, et avec en toile de fond le thème de la mort vu par les enfants. Alors c'est dit comme ça, c'est pas très excitant, mais c'est vraiment très très frais. Après, la toile de fond, c'est vraiment toile de fond, mais c'est un film qui vaut le détour quand même. Chouette petit film, voilà, qui est quand même assez pour les hommes pour ceux qui sont assez sensibles, il vous arrachera une petite larmichette.
Ouais, mais... effectivement, c'était un direct vidéo.
Voilà, bon.
Pour la France, du moins, hein, je tiens à préciser.
Ok, donc My My Miracle qui vaut le détour, qui est disponible en DVD chez Kazé, je crois, Kazé Vidéo.
Exactement.
Alors nous allons entrer dans le top 10 de l'année avec numéro 10. Ouf. Donc.
Vas-y.
Le dernier maître de l'air de Shyamalan. Pour moi, ça a été une bonne, chouette surprise, que moi j'aime bien la série animée, il s'en est bien sorti. On aurait pu faire pire. Un peu impersonnel, mais finalement quand tu grattes un peu, pas tant que ça. Voilà, bon, il aurait le casting
donc,
est nickel.
Donc t'as mis Avatar en 10.
Voilà, c'est ça. Chaque année a son avatar, c'est super. Donc voilà, le dernier maître de l'air de Shyamalan. J'ai réussi à caser du Shyamalan cette année, j'arrive toujours à mettre du Shyamalan, donc je suis assez content. Numéro 9, Green Zone de Paul Greengrass. Alors, ça c'est pareil, du Greengrass, dès qu'il y en a un qui sort, je le mets. Parce que bon, voilà, je suis méga fan de la collaboration qu'il a avec Damon. Objectivement, c'est un film sur les armes de destruction massive imaginaire en Irak. Donc, un film diablement efficace et nerveux. La caméra bouge dans tous les sens. On a du casting en béton armé avec Matt Damon, Jason Isaacs. Voilà, Kinner aussi, je crois qu'il y a. Ouais. Ça déménage. Pour nous, Français, qui étions un peu au courant que ces armes n'existaient pas, le film est un peu inutile, mais il enfonce un peu des portes ouvertes, mais voilà, le film est super, super efficace au niveau du propos et au niveau de la forme. Donc voilà, ça méritait d'être dans le top 10. Top numéro 8, tu as chroniqué le manga la semaine dernière, il s'agit de Summer Wars. Le film est de Mamoru Hosoda. En fait, c'est pas un film, il y a du sport là entre les mains d'ailleurs, le manga. C'est un film d'animation japonais. Pour moi, il y a trop de films en un, il est trop complexe, mais quand même un savoir-faire évident de Hosoda pour faire chevaucher la chronique lycéenne avec des aspects plus science-fiction. C'est quand même un film à voir. Et vraiment qui dénote par rapport aux films Ghibli ou Cyberpunk qu'on a l'habitude de voir du Japon. Donc voilà, un film assez singulier, voilà, qui vaut quand même le détour. Numéro 7, Kick-Ass de Matthew Vaughn. Voilà, bon délire cartoon, bien comics, avec de la violence qui...
gore.
Voilà, de la violence qui tâche, hein, voilà, qui fait mal aux yeux, et beaucoup de gore. Voilà, c'est...
Et surtout, la maîtrise et la subtilité de Mark Millar pour sortir la BD avant le film, mais avoir une histoire de BD qui est un petit peu différente de celle du film, tout en respectant l'histoire. Alors là, c'est très fort.
C'est énorme.
La BD est avant le film.
Le tome 1. Et le tome 2 est sorti après.
Voilà. Et quand on sait quelles sont les subtilités, les différences entre les deux, tu dis les deux se tiennent.
Ouais, les deux se tiennent et les deux se complètent. Quoi. C'est ça qui est intéressant. Alors que c'est la même... pile poil la même histoire, il y a les mêmes plans, enfin bon, c'est presque du copier-coller, on va dire, hein. Mais quand même, les deux sont différents l'un de l'autre, quoi, hein. Ne serait-ce que par le support, de toute façon.
Ça a été un crève-cœur de décider qui était dans le top 5 ou dans le top 6, parce que je suis au numéro 6. Alors, j'ai éjecté le très sympathique film de Ben Affleck, The Town, qui n'est que numéro 6. Alors des gunfights, bon voilà, Michael Mannesque, un film racé, sans fioritures, mais très nerveux, l'interprétation, mais voilà, sans faille quoi. Jeremy Renner, John Hamm de Mad Men, Ben Affleck, énormissime aussi. Franchement, tu prends ton pied devant le film, chouette petit film de braquage, de gunfight, voilà, dans un petit quartier de Boston. Voilà, c'est sans conteste, je pense, le thriller de l'année, compte tenu du budget, voilà, c'est vraiment une belle réussite de Ben Affleck. Et nous allons arriver donc aux 5 premiers. Qui dit 5 premiers dit top 5.
Ah, merde,
je suis planté de jingle.
Le top 5. Numéro 5.
Alors, numéro 5, c'est du sport qui va être content. À mi-chemin, si je te dis, entre trip métaphysique de science-fiction et Odyssey Viking. Avec des personnages qui parlent pas.
Valhalla Rising.
Voilà, de Nicolas Winding Refn. Parce que enfin je l'ai vu cette semaine.
Avec Mads Mikkelsen.
Oh, c'est Mads Mikkelsen qui dit rien, mais qui.
Ah
voilà,
oui.
Qui,
ah là.
Qui, oh là là.
T'as compris?
Voilà.
Vous avez compris.
Moi je dis juste oh là là. Alors par contre, faut être en forme. Hein. Faut pas avoir envie de dormir avant.
Non, faut être en forme. Normal quoi,
hein, voilà.
C'est-à-dire ne pas abuser de substances illicites ou même pas en prendre, être clair quoi. Et c'est le film qui va vous transporter de toute façon. Quoi.
Ouais, et c'est bien parce que là on parle vraiment d'expérience cinéma. C'est-à-dire ouais. Que c'est ce qu'on attend d'un film, c'est-à-dire une expérience que qui te prend au trip en fait. C'est où quelque part dans un recoin insoupçonné de ton corps, tu sais pas ce que c'est, tu pourrais pas résumer l'histoire. Mais c'est un peu l'effet que faisait 2001 ou les films de Tarkovsky, tu vois, c'est...
Ouais, ouais.
Voilà, c'est, bon, voilà, c'est une belle réussite, avec de la belle boucherie, voilà, un héros...
Des paysages...
voilà, les hautes terres d'Écosse, filmées
ouais,
comme
ouais,
jamais.
Ouais.
Oh,
mais bon...
Voilà. Allez, on enchaîne avec le 4.
Numéro 4.
Une autre grosse baffe dans la gueule avec Shutter Island
ah, ouais.
De Martin Scorsese. DiCaprio avec un visage complètement halluciné, une atmosphère glauquissime et super singulière, une histoire qui fait vraiment froid dans le dos. Tu quittes le film, tu dis ouf, voilà, une fin un peu bavarde, mais voilà, c'est voilà du gros, du coup béton, du voilà du Scorsese comme on l'aime. Et moi j'ai pas lu le bouquin, mais je pense que c'est un film qui rend hommage au bouquin. Enfin, c'est qui supporte
ah oui,
la comparaison.
Oui, 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 non, mais bon, là où c'est très fort, hein, c'est que bon, ben, ce n'est pas l'auteur du bouquin qui réalise le scénario, c'est une nana, hein, et l'adaptation scénaristique est vraiment très réussie. Bon, c'est vrai que dans un film, on peut pas tout mettre, on peut pas mettre tout ce qu'il y a dans le bouquin. Volontairement, ont été occultés certains éléments. Qui font partie du bouquin et qui sont un petit peu un fil rouge dans le bouquin, hein, une espèce de petit jeu de piste, hein, mais ça ne gêne pas du tout dans le film, parce que bon, c'est quand même Scorsese qui est derrière, quoi. Et là, bon, bah, ok. Une petite erreur, deux petites erreurs, on va dire, concernant des détails picturaux, mais à part ça, pff, ouais. Rien à dire. Hein. Et justement, un DiCaprio qui maintenant s'affirme comme étant l'un des meilleurs acteurs et un acteur qui maintenant est capable de pratiquement tout jouer. Quoi.
Oui.
Il est mature, il est adulte. Maintenant, on va pouvoir parler de Caprio dans tous les rôles. Quoi. Et pas seulement dans les rôles de jeune premier, belle gueule. Et puis
il a le corps qui veut dire quelque chose maintenant. C'est-à-dire qu'il commence à avoir, voilà, c'est plus jeune, voilà, comme tu disais, jeune premier. Donc il a des rides, il a des commence à avoir des de la matière quoi.
Voilà, Clark Gable quoi.
Clark Gable.
Numéro 3.
Allez, le film sud-coréen du top 5 de tout bon top 5 de l'année qui
bah
s'inspecte
oui.
Avec l'excellent Mother de Bong Joon-ho. Alors voilà, entre Chronique décalée, Thriller implacable. Alors implacable, c'est tous les films sud-coréens qui sont implacables. Déstabilisant, un portrait d'une mère qui est prête à tout pour préserver son fils. Un énième métrage en béton armé de Corée du Sud par l'auteur de Memories of Murder et The Host. C'est toujours avec des flics incapables, une enquête policière qui est glauquissime, une nana bien tabassée comme il faut, et le coupable que tu sais jamais si c'est lui ou c'est pas lui. Bon, voilà, tu sais jamais sur quel pied danser, et franchement, c'est encore une belle réussite. Donc, ce Mother.
Numéro 2.
Alors numéro 2, ça s'est joué à pas grand chose.
C'est pas évident de réaliser, tu vois, et en même temps de curer la souris parce qu'elle est inutilisable. Ah.
Alors c'était, alors, voilà, c'est clavier, ça s'est joué à pas grand chose avec le numéro 1, mais le numéro 2, voilà, c'est un film coproduit par des Espagnols, qui est sorti en tout début 2010, qui s'appelle Agora, de Alejandro Amenábar, et qui décrit justement qui prend pour cadre Alexandrie, et c'est ça décrit le moment où la civilisation païenne bascule dans le christianisme, et ça donne de la boucherie, beaucoup de boucherie, un portrait lumineux d'une scientifique qui est jouée par une Rachel Weisz, toujours plus magnifique d'un film à l'autre, du souffle épique, de la subtilité, avec aucun personnage qui est tout blanc ou tout noir. Ils sont tous dans des niveaux de gris, ça devient sombre ou clair au fur et à mesure du film. Alors c'est marrant parce qu'au début du film, tu sens lui c'est l'enculé, lui c'est le bon, et en fait finalement après c'est inversé. Et tu sais jamais comment juger les personnages, tu peux pas les juger en fait. Et voilà, mis en scène de façon très lumineuse aussi par le réalisateur de Ouvre les yeux et les autres. Voilà, c'est Agora, très 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 bon film qui est passé totalement inaperçu de les critiques et du public.
Numéro 1.
Alors forcément, il manquait The Gros Film de l'année 2010, dont tout le monde parle, a parlé, a devisé dessus. Vous connaissez mes réserves sur ce film, mais ça m'empêche pas de le mettre quand même numéro 1, parce que c'est quand même un film qui a marqué. Il s'agit du film de Christopher Nolan, Inception. Voilà, donc audace du pitch, ambition formelle, un rythme peut-être parfois rébarbatif, mais... quand même, c'est un film qui vaut le coup d'œil. Voilà, trop d'ambition peut-être, film trop court où il aurait fallu en faire deux.
Mais justement, Christopher Nolan évoque la possibilité de faire un 2.
Ah là là, ok, ouais. Bon, ben il y a de la matière. Hein. Mais bon,
on va peut-être attendre qu'il ait fini le nouveau Batman. Hein.
Voilà, hein. Voilà. Alors, c'est pas le chef-d'œuvre vanté par tous parce qu'il y a quelques petits défauts, mais je finirai là-dessus. C'est quand même un métrage qui a des couilles.
Moi, ce que je trouve très fort, c'est que c'est un film dont les incohérences font partie du film.
Oui, voilà.
C'est ça qui est étonnant. C'est que finalement, on se dit, le mec qui veut chercher la petite bête et tout, il dit, ouais, non, mais c'est quoi cette techno? Ouais, et puis si, et puis il y a ça, etc. Et puis tu te dis, mais c'est ça qui est génial, c'est que ça joue vraiment dans le film.
Oui, et puis en fait, le film a les qualités de ses défauts. C'est-à-dire que ceux qui sont les tracteurs disent, ouais, mais c'est plein d'incohérences. Et les fans disent, bah forcément, c'est dans un rêve.
Bah oui.
Donc voilà.
Donc il faut, pour faire une critique à partir de là, il faut y aller sérieusement sur la rhétorique et tout, sur la symbolique d'ailleurs qui est très forte.
En tout cas, voilà, c'est pas un film parfait, mais en tout cas, on y va suffisamment franco ici avec les films tièdes où il y a aucune ambition, où les gars ils sont un peu dans leur modèle, ils en sortent pas. Là, franchement, pour une fois qu'il y a quelqu'un qui ose. Au risque de se planter, mais qui ose livrer un truc différent et super ambitieux, super riche, avec un casting, mais vraiment super aussi, ben voilà, il faut dire qu'on applaudit à deux mains et qu'il y aille et qu'il refasse la même chose.
De toute façon, en plus, le film est sorti sans vraiment beaucoup de publicité, on va dire.
Je pense
qu'il était
invendable, personne ne savait comment parler.
On n'a pas vu des affiches pleine ville, on n'a pas vu des spots télé ou radio pour vanter la sortie du film. Et le film a fait plusieurs en France a fait plus d'un million de spectateurs, donc déjà rien que ça c'est une réussite, hein. Ça veut dire que les gens ont adhéré quand même à ce film.
Tout à fait.
Donc ce classement donc de l'année selon toi. Hein,
alors, évidemment, oui, il y a beaucoup de films que j'ai pas vu, bien sûr. Il y a eu L'Arnaqueur, il y a beaucoup de films qui valaient le détour, bien sûr. Mais bon, on chronique que ce qu'on a vu, hein, donc voilà. Voilà, merde.
Et il est midi, il est 1h14 exactement, sur Radio FMR 89.1 MHz, dans le Super Week-end où on fait la sélection un peu de notre sélection.
La sélection de notre sélection.
Et vu l'heure, ça va être hyper à la bourre. Donc, du sport, je crois que tu vas pouvoir faire que les deux tops.
Bah ouais.
Les scénaristes se suivent et se ressemblent, les héros s'en sortent toujours et on aime toujours ça, c'est la loi des séries.
Et point de vue série, du sport, toi tu as fait une sélection. Moi je déteste ces trucs de liste, tu sais, c'est les mecs qui font des trucs dans les blogs là, les listes, les articles là, les 14 trucs à ne pas louper, les 25 trucs pour ne pas louper la cuisson de l'œuf dur.
Cette chose que vous ne savez pas sur moi.
Voilà, exactement. Je déteste ça. Et puis là, on joue le jeu, on le fait quand même, mais Tu sais, on va peut-être tomber sur des surprises intéressantes, puisque toi, Duce, tu es allé plus loin que sur l'année 2010.
Ouais, parce que bon, pour parler de la meilleure série de l'année, c'est un petit peu difficile. Parce que une série, de par son format et de par le mode de le média utilisé, eh bien, n'est pas vraiment daté, quoi. C'est ça le problème, quoi. C'est-à-dire que est-ce qu'il faut se.
Il faut faire une saison.
Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il faut absolument parler de la série quand elle sort dans son pays d'origine ou quand elle sort dans notre pays, c'est-à-dire ici en France, là déjà il y a toujours plus ou moins un petit décalage. Quoique les dernières séries sorties aux États-Unis sont très très souvent, de plus en plus souvent, eh bien sortent en France quelques mois après, hein, alors qu'avant des fois il fallait attendre une année voire deux années pour avoir la série à l'écran en France. Et là, c'est pour ça que pour moi c'était un petit peu difficile. Et il faut aussi dire que ça fait quand même plusieurs années qu'on n'a plus autant de bonnes séries qui sortent comme ça, quoi. On a été gavé, hein, c'est vrai, quoi, pendant une période dorée, hein, qui allait de la fin des années 90 jusqu'environ 2003, 2004, 2005. Et là, ça se tasse quand même un petit peu. Je dis pas qu'il n'y a plus de bonnes, d'excellentes séries et tout. Il y a quand même quelques ovnis qui nous débarquent, comme ça et qui nous laissent un petit peu sur les fesses, pour rester poli. Hein. Mais c'était un petit peu difficile.
Les gosses du sport écoutent.
C'est pour ça que j'ai préféré vous faire un top 5 des meilleures séries sur la décennie écoulée.
Ah, pas mal.
Hein, donc, on est en 2011, on attaque une nouvelle décennie.
Alors, attends, la décennie écoulée, alors, attends, ouais, donc Oz, il est dedans. Ah.
Alors, Thomas, lui alors, casse pas le truc.
L'autre, oui, non, mais il a raison. Mais l'autre critère de sélection, ça a été de choisir des séries qui, même quand elles duraient plusieurs saisons, eh bien, tenaient le coup, du début jusqu'à la fin. Parce qu'il y a pas mal de séries qui était vraiment excellente lors d'une première saison, voire d'une deuxième saison, mais qui commençait tout doucement à se ramollir les saisons suivantes. Ou alors, c'était des séries qui ont connu un départ fulgurant, mais qui ont été stoppées dans leur élan par les producteurs, par les chaînes de télé, parce que ça rapportait pas assez de fric, et qui donc ont été stoppées un petit peu brutalement. Donc, j'ai volontairement éliminé ces séries-là. En ne gardant que des séries qui, du début jusqu'à la fin, avaient quelque chose à dire et étaient vraiment très intéressantes.
Alors attention, je suis en train de faire ma liste des séries que je pense que tu vas mentionner et on va comparer après.
D'accord, tu vas pas te tromper de beaucoup à mon avis, de toute façon.
En 3 sur.
Alors, on peut attaquer là direct si tu veux, quoi.
Le top 5. Numéro 5.
Alors, c'est une série anglaise qui a été retravaillée, qui a été adaptée aux États-Unis. Mais l'adaptation américaine, bien que le casting soit à la hauteur, n'est pas aussi convaincant.
Life on Mars.
La série anglaise, c'est Life on Mars, bien entendu, avec l'excellentissime John Sims. Avec l'excellent, excellentissime
l'adaptation
Philippe Lannister.
L'adaptation américaine est en cours de diffusion sur M6 en deuxième, voire troisième, voire quatrième partie de soirée,
oui,
le jeudi soir.
C'est une rediff.
Parce que, ouais, alors ils disent que c'est inédit. Ils l'ont passé d'abord à 22h il y a 10 jours, et là, cette semaine, ils l'ont passé à 1h40 du matin.
Ouais, non, mais bon.
Mais rien que la version américaine est déjà pas trop mal, donc j'ose même pas imaginer ce qu'est la version anglaise.
Bon, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que les Américains ont réussi à adapter la série et à la transposer aux États-Unis. Là, ils ont fait très fort, mais ils ont l'habitude. De toute façon, ils sont payés pour ça, assez cher, quoi. Mais d'un autre côté, on adhère moins à cette espèce d'ambiance et à cette espèce de paradoxe temporel, quoi, dans lequel se retrouve John Sim au début et pendant l'ensemble de la série. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les personnages là vraiment cassent la baraque à fond les manettes. Et on a un twist final qui alors là est énormissime à la fin de la saison, parce que il faut quand même rappeler que Life on Mars, c'est l'histoire d'un flic qui poursuit un criminel de nos jours et qui prend un pet dans la gueule, évanoui, se réveille, et il se réveille en 1973. Et donc, il va se retrouver dans un commissariat avec les méthodes de 1973, alors que lui, c'est un flic de nos jours. Donc, au départ de la série, eh bien, pendant quelques épisodes, on a quand même cet aspect où, justement, quoi, le flic se dit, bon, bah, attends, mais vous avez pas de portable? Non, mais là, il faudrait faxer le truc. Bah, non, c'est quoi un fax? Enfin, bon, tu vois,
dans la version américaine, il commence par péter un câble et il a dit, où est mon ordinateur? Ouais, il y a l'autre qui lui dit, mais tu te prends pour quoi? Pour un astronaute? Ouais. C'est des trucs comme ça. Bon, voilà, c'est hilarant. Quoi.
Mais sinon, bon, bah.
Surtout, il n'y a pas de Miranda Warning, justement. Alors, vous êtes en état d'arrestation, vous pouvez garder le silence et tout. Là, t'en as pas. C'est bon, allez, tu vas parler, connard. Boum, allez.
Ah oui, non, mais c'est bien transposé parce que bon, c'est très, ce qui se passait à Manchester, la série City à Manchester dans les années 70-73. Et là, vraiment, bon, bah, ok, c'est comme ça que ça marchait, quoi. Disons, c'est un fait reconnu, hein, c'est historique, hein, de toute façon, quoi. De notre côté, dans Life on Mars version anglaise, ce qui est vraiment épatant et qui est magnifique, c'est la bande originale. Dans chaque épisode, vous avez au moins 2-3 morceaux qui sont des morceaux qui tournaient à l'époque, qui étaient des tubes, que ce soit des tubes ricains ou des tubes anglais. Et là, vraiment, ça fonctionne à fond les manettes. On est bien dans l'ambiance, on se retrouve dans l'ambiance 1973 et tout, et là, impeccable. Life on Mars, donc, c'est le numéro 5 de ces meilleures séries de la décennie.
Numéro 4.
Alors là, c'est une série qui n'est pas encore terminée. Mais rien qu'à voir, la troisième saison est en cours de diffusion, mais sur Orange. Là, je vous donne déjà pas mal d'indices. Les deux premières saisons ont été passées sur Arte il n'y a pas si longtemps que ça.
Valander ?
Et non, là, c'est carrément.
Breaking Bad.
Là, c'est carrément un truc énorme. C'est la série énorme, énorme, énorme du moment. Hein, il y a eu, vous verrez plus tard, des séries qui ont explosé, quoi. Début de la décennie, la fin de décennie, on a un Breaking Bad qui va rejoindre. Hein, c'est prédécesseuse sans problème. Hein, je m'attends même pas à ce que cette série se casse la gueule parce que je sais que ce sera pas possible.
Une grande chaîne publique anglaise, une petite chaîne du câble américaine.
Et ça donne Breaking Bad avec un Bryan Cranston qui est magnifique, qui est excellent. Hein, c'est vraiment un excellent acteur, hein, ce mec-là. Mais il n'y a pas que lui, hein, de toute façon. Hein, il y a aussi le reste de la bande. Et surtout, l'idée lumineuse de Vince Gilligan qui, a signé un truc impeccable. Life on Mars, donc. Breaking Bad numéro 4.
Bon. Attends, parce que le plus drôle, c'est que j'ai baissé le son trop tôt, juste au moment où le jingle top 3
enchaîne. Numéro 3.
Moi, j'ai mis 3 séries dont tu n'as pas parlé, donc j'espère que ce sera les 3 qui restent.
Ok, ok. Fallait également, je me suis dit, sur cinq numéros, il faut bien que je case un truc français, quand même.
Oh merde!
Quand même. La vie?
Quand même.
Non.
Et,
Camelot.
On a eu de très très bonnes séries, françaises.
Encrenage.
Camelot.
Police District. Entre
autres. Putain, mais c'est vrai, oui.
Et oui, rappelez-vous, hein, on est sur une période de 10 ans. Ouais, Police District, plus ou moins la découverte d'Olivier Marchal. On le connaissait déjà comme acteur dans la série sur les trains, là, quai numéro 1, voilà. Et là, bon, bah, ok, il est l'instillateur de cette série. L'acteur principal, en collaboration avec Hugues Pagan, hein, qu'on ne présente plus. Mais là, réussite formelle, hein, deux saisons seulement. Mais alors, du début jusqu'à la fin, bon, on est dedans. On se dit, on a trouvé le renouveau de la fiction française, de la fiction policière française. C'est bon, ça marche, ça va le faire. Ça va peut-être décomplexer les autres scénaristes et ça va peut-être leur dire, écoutez, allez-y, ayez des couilles. Et ça veut aussi dire qu'il n'y a pas que sur Canal qu'on peut prendre des risques.
Malheureusement, ça a été la seule fois où M6 a vraiment pris des risques.
Et malheureusement.
Voilà.
Ex aequo avec Police District, je mettrai également sur le fil cette, on va dire, mini-série parce qu'il y a eu 2 saisons, mais à chaque fois 6 épisodes par saison, mais qui passaient dans la case.
Non, c'est ex aequo
3. Hein,
ah,
3,
c'est
3.
Un top 6, il a triché.
3.
Sur le fil, donc, cette série qui est passée sur France 2 dans la case du vendredi soir, la case série policière du vendredi soir. Et là, ça a été une surprise énorme, quoi. Première saison avec un fil rouge, c'est l'histoire du tueur à la corde de piano. Et la deuxième saison, avec l'histoire de l'infiltration et la fin, justement, parce qu'à la fin de la première saison, il trouve pas encore qui est le tueur de corde de piano. Il croit l'avoir trouvé, mais non, mais c'est pas le bon, en fait. Hein. Celui qui s'accuse, c'est pas le bon. Dans la deuxième saison, bon, on l'apprend qui c'est, bien sûr, et une autre histoire Et parallèlement, il y a une autre histoire d'infiltration dans un réseau de proxo et tout, très glauque et tout. La fin est un petit peu foutraque, on va dire, le dernier épisode et tout, parce que bon, ben, les scénaristes se sont dit, ah merde, on a encore plein d'idées, mais il nous reste qu'un épisode, comment on va faire et tout. Allez, on balance tout et puis c'est bon. Mais ça fonctionne quand même. Et surtout, c'est l'interprétation. Les acteurs sont vraiment excellents, François Levental en tête, mais également les autres qui sont vraiment très très bien. Là, on se dit pourquoi pas continuer, quoi, faire des trucs comme ça et tout.
Un
quoi.
Flic.
Sur le fil, c'est peut-être une série qui aura des suites, de toute façon. Il n'y a pas de problème, de toute façon. Pardon, donc, numéro 3, Police District et sur le fil. Là.
Alors, tu me mimes quel est le numéro suivant, du coup, dans ton classement?
On peut pas le mimer, on est à la radio.
Non, mais le numéro. Ok, voilà, parce que moi je ne sais pas, parce que il le classe comment là?
Numéro 2.
Évidemment, Les Sopranos.
Ah, je l'avais marqué.
Ah,
évidemment.
Yes.
Évidemment, hein, c'est ça va être une référence, ça restera une référence pendant des années, voire des décennies. Hein. Ça, y a pas de problème. Hein. Quoi dire, j'en ai suffisamment dit au cours des émissions passées. C'est pas la peine d'en rajouter de toute façon, quoi. Et en numéro 1,
Attends, je voulais mettre la musique des Sopranos, tant pis.
Numéro 1.
Forcément.
Quand Oz. On se connaît, ouais.
Alors, Oz, bon, il faut dire que pour les Sopranos et pour Oz, on parle de séries de la décennie. Ce sont des séries qui sont terminées dans la décennie précédente, mais qui ont commencé dans les années 90. Oz a commencé en 97, version américaine, 98 en France, série club. Et Soprano a commencé juste après, je crois, en 98, il me semble, 97, 98.
97, elle a explosé grâce à un procès qui a eu lieu en 98.
Et voilà. Ce sont deux séries HBO ou non?
HBO, ouais, toute façon, quoi. Ouais, deux HBO, quoi, de toute façon. Voilà, donc le top 5, Oz 1, Soprano 2, Police District sur le fil en 3, séparé, hein, Breaking Bad en 4 et Life on Mars en numéro 5.
Et tu vois, dans mes séries, j'avais mis Epitaphios.
Eh bien, justement, je me suis dit, bon, je pourrais peut-être rajouter les séries que j'aurais pu mettre dans le top, mais que j'ai pas mis parce que j'en ai mis d'autres. Epitaphios en fait, bien entendu, partie, ça, il n'y a pas de problème.
Tu me feras un joli billet quand même avec ton top 6, du coup. Il faut bien que je link quelque part la liste. Seulement, il se trouve que Madame du Sport a dit « Ah non, tu pars pas comme ça. Tiens, je te rajoute ça dans la liste des commissions. »
Ben non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Je lui dis bon, ok, je suis obligé de faire un top 5 et tout. Nanana, ça m'emballe pas trop, mais enfin bon, qu'est-ce que t'en penses et tout. Puis bon, elle m'a dit oui, ceci, cela, d'accord et tout. Et elle m'a dit « Ah ben non, mais attends, je vais te faire un top 5. Un top 5 des trucs que tout le monde encense et que je peux pas blairer. »
Le top 5
des trucs qu'elle ne peut pas blairer.
Numéro 5.
Alors c'est un avis tout à fait personnel, hein, je tiens à le préciser.
Comme le reste. Bon,
et je vais pas m'étendre sur les considérations parce que des fois ça passe pas à la radio. D'accord.
Okay. Non, les
alors en numéro 5, Elle-World. Parce que dans le genre... Déjà, la version américaine de Queer as Folk, c'était pas top. Enfin, elle l'a pas vue, donc elle peut pas en jouer. Mais par rapport à Queer as Folk, version anglaise, qui était vraiment une super réussite, Elle-World est vraiment très très fade.
Numéro 4.
Grey's Anatomy.
Ouais, c'est vrai qu'on en a beaucoup trop parlé, que ça surfait sur la suite d'urgence et le rattrapage aux branches vis-à-vis de Dr. House.
Et j'ai noté la phrase hein, parce que il fallait le faire hein, parce que Catherine Heigl était déjà insignifiante dans Roswell.
D'accord.
Numéro 3.
C'est Alias.
Oh non.
Ah ouais, je savais que ça allait hurler.
Non, moi je trouve c'est justifié.
Et moi je suis entièrement, enfin j'aurais mis aussi dedans quoi, parce que jamais trouvé ça vraiment tellement bien quoi, enfin bon voilà quoi.
Moi il y avait un copain qui m'avait résumé cette série, il m'a dit c'est une série de 5 saisons avec 4 saisons de trop.
Peut-être.
C'est un petit peu ça parce qu'il y a tellement de revirements.
Oui,
revirements,
mais après
c'est
insupportable. Mais c'est ça qui fait le charme de la série, tu loupes un épisode, tu peux plus suivre.
Numéro 2.
24 heures.
J'en étais sûr. Oui, c'est
ouais, parce que là t'as des revirements, et puis chaque fois que tu te retrouves à être malheur d'être féminine et dans le sillon de Jacques, c'est loupé.
Oui, oui, non, non, non. Et puis bon, c'est avec en sous-titre, j'aime bien la famille Sutherland, mais là, non.
Oh. 13h29 minutes 33 secondes.
Numéro 1.
Des trucs qu'elle peut pas blairer.
Six Feet Under.
Oh bon. Alors moi je connais pas, mais tout le monde,
moi aussi,
je connais personne
surpris.
Qui dit que c'est nul. Mais...
Eh ben non, mais parce que bon bah c'est Six Feet Under, c'est quand même spécial, faut rentrer dedans. Hein, si tu rentres pas dedans, y a pas de problème, ça va t'emmerder, ça va faire chier et tout. Et puis bon, comme elle me l'a dit si gentiment,
c'est
histoires de croque-mort, j'en ai rien à foutre.
Et puis c'est très long, surtout c'est très lent et un peu abracadabantesque.
Ouais, donc, mais c'est pas le rythme. Hein. Je veux dire, dans Breaking Bad, c'est pareil. Hein. T'as des épisodes où le rythme est super lent, où il se passe pratiquement rien pendant un épisode, mais pourtant ça fonctionne à fond, quoi. Hein, là, bon bah ok.
Et c'est marrant
parce
que
moi, je rajouterais, tu vois, Desperate Housewives en rapport avec
Six
Feet
Under. Non, ça, elle a bien aimé.
Ouais, mais pour
au
une
début,
raison.
Au début.
Pour une raison toute simple, c'est qu'on prend le prétexte d'un personnage important qui meurt dans le premier épisode à l'intro et qui sert de voix off pour la suite.
Et donc ?
Et je trouve du coup que ça fait un petit peu éculé.
Ah
tout.
Non, moi je trouve ça pas mal. Mais en plus, il y a pas mal de grosses séries dont on n'a pas parlé, comme House, comme Braco.
Oui. À un moment, je me suis dit, merde, j'ai pas mis Dr. House. Et puis bon, bah ok, hein, il faut bien dégager un petit peu. Et c'est
Dexter,
vrai que
Lip-Tuck.
Là aussi, hein, en préambule, quand je vous disais, bon, bah il faut aussi que la série, elle tienne la route du début jusqu'à la fin. Dr. House, c'est pas encore fini. Mais enfin bon, il y a quand même un léger essoufflement chez le Dr. House. J'aurais pu également mettre dans mon top 5, par exemple, New York, unité spéciale qui a commencé la dernière décennie. Mais... La forme est un peu différente parce que là il s'agit de séries séquelles, quoi. C'est-à-dire que bon bah un épisode, une histoire, un épisode, une histoire, un épisode, une histoire. Donc bon bah ok, quoi. Ce sont des franchises,
ouais, il
des
soit
séries franchises.
Il fallait là, que ça soit feuilletonnant. C'est vrai
là,
que toute
là,
la liste.
Là, ce sont des séries qui sont feuilletonnantes, quoi. Donc il y a un intérêt qui est quand même un petit peu supérieur à des séries comme New York District et tout, que j'adore hein, personnellement hein, les trois d'ailleurs, hein, criminel ou
police judiciaire
ou victime spéciale ou victime unit, mais c'est la forme qui est complètement différente.
Ah, juste une chose, je l'ai pas mis d'ailleurs malheureusement dans le listing des liens, mais il y a BBC America qui est une chaîne payante hein, aux États-Unis, qui a fait une bande annonce pour la diffusion de Law and Order UK. Où en fait ils comparent, ils expliquent aux Américains ce qu'ils vont apprendre par rapport au système judiciaire anglais en regardant cette série et le montage.
My lord.
My lord and my lady. C'est à hurler de rire, surtout qu'il y a un passage qui est très rapide dans cette bande-annonce qui dure une minute hein, quand même, qu'ils ont mis eux-mêmes sur YouTube. C'est que c'est sur le slang anglais purement londonien, ça va extrêmement vite, mais alors putain, qu'est-ce que c'est bon. On va arrêter là, hein, du coup.
Je voulais rajouter quelques petits trucs. Hein, on va pas faire le.
Bah, ce que peut-être tu peux pas reprendre la semaine prochaine, mais vu l'heure, parce que.
Bah
sinon...
non, parce que là, déjà vous signalez la mort d'Albert Reisner.
Oui.
Le 1er janvier, 88 ans, Albert Reisner. Quand j'étais tout petit, je regardais ses émissions à la télé en noir et blanc et tout, quoi. Ça a été un de mes éveils à la musique populaire. Hein, H tendre et tête de bois, il faut se rappeler de ça. Excellent harmoniciste de blues et de jazz. Et surtout, le look d'Albert Reisner. Ses vestes à carreaux ou à pois, magnifiques. Bref, même en noir et blanc, ça le faisait. Donc, ciao et porte-toi bien là-haut. Sinon, il y a également une seule série inédite qui sort cette semaine et ça peut valoir le coup. Malheureusement, c'est encore sur ce bouquet de chaînes qu'on attend qu'ils crèvent quoi, pour pouvoir les avoir sur une autre chaîne. C'est sur Orange Cinéchoc et ça passe à partir de demain soir. Ça s'appelle Justified et le western reprend car après Deadwood, eh bien, nous avons Justified qui est l'histoire d'un marshal de Harlan County dans le Kentucky. Interprété par Timothy Olyphant, qu'on avait déjà vu dans Deadwood d'ailleurs, et c'est inspiré d'un bouquin d'Elmore Leonard. Donc là, bon, on peut se dire qu'il y a quelque chose de pas mal et tout. Elmore Leonard, qui a eu pas mal de quelques bouquins qui ont été adaptés au cinéma.
Alors Edmond Leonard, c'est Jackie Brown.
Jackie Brown, entre autres.
Et,
ouais, ouais.
Et
Get Carter aussi, me semble-t-il.
Ah bon,
ouais, ouais.
Ah, ça, c'est pas top.
Oui, oui, parce que c'était la suite en fait, quoi. Donc ça, c'est sur Orange Cinéchoc et c'est à partir de demain soir, 20h40. Sinon, je vous avais parlé la semaine dernière de ce téléfilm qui passe justement dans cette case du vendredi soir sur France 2. Et c'était Dame de cœur. Dame de cœur avec donc Thierry Godard dans le rôle principal qui interprète le rôle du commissaire Martin. Et avec entre autres le retour de Mickey Sébastien qu'on voit dans absolument toutes les séries du vendredi soir. Elle était déjà dans Avocat et Associés. On la voit également, c'est elle la patronne de Sur le Fil, des enquêteurs de Sur le Fil. Et là, bon, ben, ok, elle est également patronne de Thierry Godard. Alors, Dame de Pique, c'est le téléfilm qui sera diffusé vendredi prochain. Et en fait, ça va être quatre téléfilms qui sont à chaque fois Dame de Cœur. On a eu hier soir Dame de Pique vendredi prochain. On aura Carreau et on aura Trèfle. D'accord. C'est adapté des bouquins d'Alexis Lecaille. Lecaille qui fait également Julie Lescaut. D'accord, seulement là, c'est radicalement différent. Alors j'ai vachement apprécié le mélange entre la vie personnelle des intervenants, des protagonistes et leur boulot professionnel. Il y a un mélange qui est habilement fait, il n'y a pas de temps mort. La façon de filmer est un petit peu osée, je veux dire, hein. T'as carrément des fois quoi la tête en gros plan qui sort du cadre et tout, quoi, la caméra ne bouge pas, reste là, hop, la tête revient et tout, enfin des trucs comme ça, quoi. Tu te dis tiens, mais c'est bizarre. Mais ça fonctionne vachement bien. Et l'histoire en elle-même est assez sympathique quand même. Bon, après, le sujet d'hier soir est un petit peu rebattu, une histoire de tueur en série, nanana et tout, quoi. Mais enfin bon, qui dégomme ses victimes avec une arbalète et tout, ça change un peu. C'est pas mal. Mais enfin, c'est surtout le mélange entre la vie professionnelle et la vie personnelle qui est bien développée et qui est très intéressante d'ailleurs, hein, parce que bon bah c'est assez catastrophique on va dire, hein. C'est vraiment pas quoi, la vie est un long fleuve tranquille, c'est plutôt gros bordel quoi, mais ça fonctionne vraiment très bien. Donc c'est vendredi prochain, Dame de Pique avec Thierry Godard entre autres, là c'est vraiment pas mal, jetez-y un coup d'œil, ça vaut le coup. France 2 donc 20h35, Dame de Pique.
Pourquoi j'ai pris ma respiration jingle, bonne question.
Alors je voulais aussi vous dire que lundi prochain, déjà sur Paris Première, la suite, on avait Bird in the Cage lundi dernier. On a Women in Cages lundi sur Paris Première, 22h50. Celui-là est signé Gérardo de Leon, donc un Philippin, avec les mêmes nanas que dans l'autre. Hein, de Big Bird Cage, c'est-à-dire Jennifer Garner, Pam Grier, mais là elle est prisonnière, donc elle est gentille, et Judith Brown ainsi que Roberta Colitz, les mêmes hein, que dans les autres films de femmes en prison, mais ça vaut son pesant de cacahuète de toute façon quoi.
Surtout qu'à l'époque
c'est sur Paris Première lundi, et c'est con parce que
c'est que du naturel surtout à l'époque.
Ah oui. C'est con parce que ça passe en même temps que la soirée de TF6. Qui vous propose une soirée absolument magnifique. Ce film, je vous l'avais déjà chroniqué à 20h40, Alien Sexy Girls de Jeffrey Scotlando avec Corey Sevier et Kim Poirier. Mais à 22h30, eh bien, c'est la retransmission des Scream Awards 2010. Enfin! Donc, la même chose que les Oscars, sauf que c'est uniquement pour les films de science-fiction, de trucs comme ça et tout. Ça se passe en public. Avec en public, hein, c'est-à-dire s'il y a un public, hein, c'est pas.
Tu sais qu'on a lancé le générique là.
Et le Scream Award 2010, eh bien, fêtera les 25 ans de Retour vers le futur. Donc avec des castings à fond les manettes et tout, ça vaut le coup, c'est hyper fun et tout quoi. Je me rappelle Tim Burton qui arrive dans une espèce de truc au-dessus de la foule et
Thomas,
tout.
Thomas, tu peux faire le résumé s'il te plaît quoi. Parce que là on va pas pouvoir l'arrêter.
Donc c'est lundi, c'est sur TF6 Scream Awards à 22h30.
Alors
aujourd'hui... Non, parce qu'après on va avoir les emmerdes avec le producteur à l'émission sport. Donc...
Alors aujourd'hui c'était la sélection de notre sélection, comme tu l'as joliment bien dit, avec 4 top 5, des meufs à poil sur des avions, une meuf à poil super héroïne, un vieux fusil, la bio d'un punk cutard japonais, une BD floue qui tue, un malaise animé pour une série qui se mourait doucettement, une bière au gingembre, un film qui a des couilles, des séries de la décennie, des mafieux, des prisonniers, une actrice insignifiante, des histoires de croque-mort. On a eu des femmes en cage, mais que du naturel, et la dégustation de la galette, mais toujours pas droit.
Ouais, nom d'un top 5, ils ont manqué tout ça, heureusement, grâce à la diffusion différée. Vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver les chroniques écrites, fouiller dans nos archives, nous écrire, vous faire vos suggestions, jouer à des quiz stupides, laisser vos commentaires, poser vos questions. N'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site supplémentweekend.fr sans accent ni tiré, supplémentweekend.fr, avec notamment une chronique de No Mercy et de Zombie Millennium. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz, nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM et on continue sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, une électronicienne s'envole dans les étoiles. On se retrouve semaine prochaine, même heure, même fréquence. Ciao, bye bye.
Salut.
Et de suite donc, je peux vous dire que le producteur de l'émission sportive, là, il est furieux du retard.
There is a heart.